vais pas faire durer le suspense. Le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là à des revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes.
Comme tous les jours, du lundi au vendredi.
De 12h30 à 13h30.
Sur FPP.
Fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Et là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, monsieur.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie, là, sur nos petits, avec nos petites idées, dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.
Bonjour à toutes et à tous, on est en direct sur l'actualité des luttes, votre émission de suivi des luttes sociales sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Et aujourd'hui, on va parler du Bénin. Donc je suis avec Eugénie. Bonjour Eugénie.
Bonjour Lucas.
Ça va ?
Ça va très bien.
Merci. Et avec Honoré. Bonjour Honoré.
Bonjour.
Et du coup, je le disais, aujourd'hui on va parler du Bénin. Donc ce pays d'Afrique de l'Ouest de 13 millions d'habitants qui est bordé par le Niger, le Nigeria, le Burkina Faso et le Togo, où il se passe beaucoup de choses en ce moment. Donc depuis 10 ans, c'est Patrice Talon qui est le président du Bénin. Est-ce que Honoré, tu peux me parler un petit peu de la présidence de Patrice Talon? Comment ça se passe le Bénin depuis 10 ans sous la présidence de Monsieur Talon?
Merci beaucoup. Depuis 2016, en effet, le président Patrice Talon est au pouvoir au Bénin. Et très vite, il a fait main basse sur les secteurs économiques les plus rentables. Il avait promis avant d'être élu que le président avait trop de pouvoir. Mais aujourd'hui, on est devant une situation où c'est le président qui a eu le plus de pouvoir dans le pays, puisqu'il contrôle le législatif, l'exécutif déjà, le législatif, le judiciaire et l'économique. Tout remonte au président, ce qui nous fait dire qu'il s'agit d'un pouvoir autocratique.
Ah, il a tous les pouvoirs, là. On ne peut pas faire plus. Il a fait tout le bingo.
On ne peut pas faire plus. Alors, très vite, donc, il a détruit le petit commerce, le commerce informel, et ce qui a aggravé la faim et la misère dans le pays, parce que c'est de ce petit commerce-là que la majorité de la population vit. Il a déclenché une répression contre ses opposants politiques et économiques. La plupart de ses concurrents économiques ont été éliminés, chassés vers l'étranger, sont à l'exil pour la plupart, certains en prison. Et pour y arriver, il a tissé progressivement un arsenal de lois qui légalise l'autocratie. Il a très tôt commencé par la loi sur l'embauche. Et dans cette loi sur l'embauche, il a détruit les lois qui régissent le travail dans le pays. Et il a livré le monde du travail qui est devenu corvéable à merci. Par exemple, si vous travaillez 20 ans dans une entreprise que le patron n'est plus content de vous et qu'il a tort mais qu'il vous renvoie, il plafonne les indemnités à 9 mois maximum.
Donc même si on reste 10 ans dans une boîte, quand on se fait virer, même 30 ans, c'est toujours 9 mois maximum d'indemnité.
9 mois, voilà.
D'accord. C'est des choses qui pourraient plaire à Macron, ça.
C'est très clair pour lui. Donc, il a interdit les droits de grève pratiquement interdits, complètement dans beaucoup de secteurs, santé, militaire, justice, et magistrats et compagnie. Et puis réduit à 10 jours maximum de grève dans l'année pour les syndicats.
D'accord. Donc, quelle que soit la lutte,
au bout de 10 jours, vous n'avez
plus le droit. La grève, elle est illégale, on n'a plus le droit de faire grève, c'est ça ?
Ouais.
D'accord.
Il a mis en place une loi sur le numérique. Et ça lui permet de clouer, de condamner tout le monde au silence dans le pays. Parce que pour rien, vous entendez quelque chose sur les réseaux sociaux qui recoupe votre opinion, vous le relayez. Vous tombez sur harcèlement par voie numérique.
D'accord.
On peut vous arrêter.
Donc, son harcèlement par voie numérique, en fait, c'est une façon de faire taire toutes les oppositions. Voilà. C'est ça.
Il s'est attaqué au système partisan. Avant, lui, il y avait le multipartisme. Mmh. La tendance est au parti unique. Il a créé deux partis à lui tout seul, qui sont au gouvernement depuis 10 ans. Et il fait en sorte qu'une autre force politique ne puisse venir les concourir. De façon à ce que le Parlement, les dernières élections encore confirmé ça, est monocolore. Les mairies, toutes les mairies sont contrôlées par ces deux partis. Les arrondissements, toute l'administration, le Parlement, le législatif, tout est jusqu'au village, c'est sous la coupe de deux partis qui sont en fait un seul et même parti qui appartiennent au président de la République.
Et si je ne me trompe pas, c'est les deux partis qui ont remporté les 109 sièges aux dernières élections législatives, c'est
exactement.
Ça
Exactement. Tout à fait.
On y reviendra, mais très bien.
Tout à fait. Il a mis en place un code électoral qui élimine, déjà le système partisan mis en place, élimine financièrement tous les partis. Déjà pour constituer un parti, la liberté d'association. Vous devez réunir 15 militants par arrondissement. Mmh. Et pour constituer les dossiers à déposer au ministère de l'Intérieur, il vous faut environ 30 millions, c'est-à-dire 45 750 euros pour avoir le droit de déposer un dossier pour l'accréditation d'un parti. Il a poussé plus loin. Pour être candidat à la présidentielle, il faut déposer 249 millions. Soit 380 000 euros.
C'est quoi ? C'est comme des frais de campagne qu'on est censé dépenser ? Pourquoi autant d'argent pour...
Oui, ça c'est pour... La finalité, c'est pouvoir que ce soit seulement les riches
bien sûr.
Qui puissent candidater, bien qui sûr. Puissent aller aux élections.
Bien sûr, mais lui, comment il le défend, ça ? Le fait qu'il faille autant d'argent pour ce...
Il dit qu'il y a trop de candidats qui sont farfelus, donc on met une barrière financière et ceux qui ont de l'argent peuvent se
donc
présenter.
On va laisser les riches entre eux faire les affaires et on va exclure les pauvres. C'est assez clair. Ça.
Il a tenté plusieurs modifications de la Constitution, notamment en 2019 et 2025. Et celui de 2025 a la particularité d'introduire des monstruosités insupportables au plan des droits humains. Il y a deux dispositions là-dedans qui sont vraiment insupportables. Il a mis en place quelque chose qu'il appelle un Sénat, qui regroupe des gens que l'a nommé, qui sont en fait ceux qui ont été au pouvoir avec eux depuis les 40 dernières années.
C'est ce que Jenny me disait avant l'émission. Du coup, c'est qu'en fait, c'est lui qui nomme tous les membres du Sénat. C'est bien
pratiquement,
ça?
Pratiquement, il en nomme 19 sur 25.
D'accord.
Et le président de l'Assemblée, qui est de son parti, nomme le reste.
D'accord, ouais. Donc
en fait, 100% c'est eux qui...
Il n'y a pas trop de risques, effectivement.
Voilà. Mais c'est les prérogatives de ce Sénat, soi-disant, là, qui est de plus écœurant. C'est-à-dire qu'il supplante toutes les institutions élues du pays. Il peut, par exemple... sanctionner un ministre,
d'accord.
Sanctionner un député, un maire, le Sénat. Vous imaginez ?
C'est comme un petit peu le conseil des sages, comme on dit en France, mais sauf qu'en fait, ils sont directement tous nommés par le pouvoir,
oui.
Et ils ont plus de pouvoir que les autres institutions
voilà.
Démocratiques.
Ouais. Oui, mais ils ne peuvent pas démettre un ministre.
Non, justement.
Ils ne peuvent pas démettre un député.
Ils peuvent censurer des lois en France,
voilà.
Mais ici, là, ils peuvent tout faire. Au Bénin, ils peuvent tout faire, d'accord.
Voilà, ils peuvent tout faire, ils ont des prérogatives. Mais il y a surtout une disposition attentatoire aux libertés, c'est qu'il décrète que pour une législature de 7 ans, il y a 6 ans de trêve. Qu'est-ce qu'il entend par trêve ? Pendant 6 ans,
on n'a pas le droit de
personne
critiquer.
N'a le droit de critiquer la gouvernance. Personne. Vous critiquez le gouvernement 6 ans sur 7, vous tombez sous le coup de la loi, une loi à valeur constitutionnelle. Et on peut vous arrêter.
Donc il y a le harcèlement numérique, on ne peut rien partager, plus cette loi-là qui fait qu'en fait l'opposition est totalement muselée, c'est ça ?
Muselée.
Même donner son opinion à l'encontre de Patrice Talon, c'est aujourd'hui risqué au Bénin.
Tout à fait. Donc on arrive à un régime pratiquement, une espèce de monarchie.
Ah oui. Très autoritaire en tout cas.
Et c'est lui qui dicte tout et qui soumet tous les autres pouvoirs. Donc on est dans cette situation-là où les voies pour la respiration démocratique sont bouchées. Il y a des gens dans le pays qui pensent qu'ils peuvent trouver une issue par les élections. Mais à regarder les lois, c'est impossible. Il y a une disposition dans le code électoral qui dit ceci. Vous avez beau être élu à Paris, dans un arrondissement de Paris, si vous n'avez pas 20% de suffrages exprimés à Marseille, à Toulouse, à Biarritz, à Lille ou à Strasbourg, vous n'êtes pas éligible à l'attribution des sièges.
Ça aussi, on y reviendra. C'est les règles démocratiques en vigueur, c'est ça, pour vraiment empêcher l'opposition de faire des gros scores. Il faut qu'il y ait absolument
partout.
20% dans chaque on va dire commune ou département etc. du Bénin. Il faut faire 20%
partout
pour avoir le droit de se qualifier.
On appliquerait ce code-là en France, personne, aucun parti n'aurait droit à avoir des élus.
C'est possible.
Et au Bénin également. Mais il a trouvé une astuce. Pour ces deux partis,
c'est 10%.
S'ils s'associent, le seuil baisse à 10%.
Ça, je l'ai vu. Ouais.
Et donc, voilà un peu comment c'est. Donc, on est dans cette situation-là avec ces lois que j'ai citées. Et notre pays se trouve dans une situation en réalité où aujourd'hui, on est confronté à une situation où on est un peu à la croisée des chemins.
D'accord.
Où on se résigne. Où on résiste. Le peuple ne se résigne pas. Les dernières élections, en janvier 2026,
au 11 janvier,
plus de 63% des gens ont ignoré, ne sont pas déplacés pour aller voter. Donc, ils sont à peu près un tiers de la population à se déplacer. Ils se sont partagés les choses. Le parti d'opposition de la bourgeoisie libérale qui a candidaté, a eu 16%. Mais comme il ne peut pas avoir 20% dans toutes les choses, on a dit, vous n'aurez aucun député. Et donc, les deux partis de Patrice Talon se retrouvent les seuls députés du pays.
Et c'est ce qu'on disait, du coup, c'est les deux partis de Patrice Talon qui ont raflé les 109 sièges pour ces élections législatives.
Au Parlement. Exact. Alors, quand vous bloquez toutes les voies de respiration de la démocratie...
Qu'est-ce qu'il reste ?
Ça allait être ma question.
Qu'est-ce qui reste alors ?
Qu'est-ce qui reste ?
Comment on fait ?
Voilà.
La lutte.
Ce qui reste.
La lutte.
Moi, je suis de ceux qui pensent que ce n'est que le soulèvement populaire qui va venir à bout de ce régime. Mais il y a des gens qui pensent, et notamment les militaires, qui peuvent par voie de coup d'État renverser le pouvoir.
C'est ce qui a abouti au coup d'État.
C'est ce qui s'est passé le 7 décembre dernier.
Voilà.
Et avant le 7 décembre dernier, il y avait beaucoup de bruit de coup d'État et tout cela. Et le 7... Il s'est avéré qu'il y a eu... Écoute, le narratif du gouvernement, le récit des choses, font que bon, beaucoup de gens se demandent qu'est-ce qui s'est vraiment passé quand on voit le déroulement de ça et tout ça, quand on voit qu'après après cette tentative de coup d'État, on a émis des mandats d'arrêt contre deux activistes qui sont à l'extérieur du pays. On ne cite pas le nom du chef des putschistes. Alors, bon, le doute est permis, tout est là, mais il y a un récit. Ce qui est frappant dans cette histoire, c'est que le jour du coup d'État, trois forces étrangères ont été appelées au secours par Talon pour venir le protéger.
Qui sont ces trois forces étrangères ?
Qui sont la France,
évidemment.
Avec comme ils ont reconnu ces forces prépositionnées au Bénin, avec les renseignements, parce qu'ils ont le contrôle de l'espace aérien du Bénin.
On y reviendra sur la présence militaire française au Bénin.
Ils ont fait appel au Nigeria, qui a envoyé des troupes terrestres sur le territoire béninois, qui par voie aérienne a bombardé sur le territoire béninois, la France a fait appeler, a fait venir de Côte d'Ivoire les forces spéciales qui sont basées en Côte d'Ivoire pour venir au secours. Trois pays étrangers sont intervenus pour protéger le pouvoir de Patrice Talon. Donc, aujourd'hui, lorsque des gens se battent dans le pays pour dire que les forces étrangères n'ont qu'à rentrer chez elles, que les troupes françaises sortent du Bénin, ils sont arrêtés au motif qu'ils font, par exemple, pour Aïmassé, ils ont dit « dénonciation calomnieuse ».
D'accord. Et ça tombe sous le coup de la loi, ça aussi, évidemment.
Il est arrêté, il va être jugé, condamné, mis en prison pour ça, pour avoir dit « la présence de forces étrangères dans notre pays est attentatoire à notre souveraineté, que ce n'est pas supportable ».
Oui, donc en fait, la simple phrase qui va en dehors du récit de Patrice Talon, elle est considérée comme justiciable et les gens peuvent se retrouver en prison pour une simple prise de position.
Oui, voilà. Donc l'issue que nous voyons, c'est que il faut absolument casser l'arsenal juridique qui encadre l'autocratie. Mmh. Sans ça, il n'y a pas de respiration démocratique possible. Il n'y a pas d'élection possible, rien. Et pour que personne, aucun individu, soit-il militaire, ne vienne nous imposer ses désirs, nous disons que le passage obligé aujourd'hui, c'est qu'on aille tous en conférence nationale pour réécrire les règles de vivre ensemble. Une nouvelle constituante qui définit les règles et qui créerait les conditions d'un exercice démocratique dans le pays. Voilà le contexte dans lequel nous sommes. Et je crois que je vais laisser la parole à Madame Eugénie de Sacquenom pour la présidente du CCDB nous parler des détenus politiques, leurs conditions et les choses. Et nous avons plein de réfugiés politiques également ici. Et peut-être à la fin, on reviendra sur...
On reviendra dessus, tout à fait, puisque Eugénie, toi, tu es présidente du comité culturel pour la démocratie au Bénin, et tu allais dans le sens de ce que disait Honoré, sur le fait que depuis 10 ans et la présidence de Patrice Talon, toi, ce qui t'inquiète le plus, c'est le recul des droits humains, c'est
ça ? Absolument, oui. Il y a un recul inquiétant des droits humains, parce que jamais sur le territoire du Bénin, on a vu ça. Pour un oui ou pour un non, on est arrêté. On est arrêté et on vous prend votre portable. Vos contacts aussi sont arrêtés. Ce qui fait que la population carcérale a doublé.
En l'espace de 10 ans.
Même triplé. En l'espace de 10 ans de présence de Talon. Le nombre est passé de 7 000 à 18 170.
Ah oui, effectivement, ça a quasiment triplé, tout à fait.
Ça a quasiment triplé. Avec un recul impressionnant des droits des détenus. Et on vous arrête, vos familles n'ont pas le droit de communiquer avec vous. Et les gens qui n'ont pas les moyens de prendre un avocat, normalement, on leur trouve un avocat d'office. Non, ils sont sans défense.
D'accord.
Et on arrête à tout va. On a arrêté à cause de cette politique jusqu'au 7 décembre, le coup d'État. Mais après le coup d'État, ça a empiré. Et on n'a pas le droit de manifester. Personne n'a plus le droit de manifester. Sauf si vous manifestez pour louer le président. Il y a des gens dans la rue.
Mais ce n'est pas une manifestation, ça. Oui, il faut seulement être en faveur de Patrice Talon pour pouvoir...
Pouvoir manifester dans le pays.
Ok, donc il n'y a pas vraiment le droit de manifester.
Voilà.
On peut le dire.
Donc, Honoré a soulevé le droit de grève des syndicalistes.
Oui, qui était réduit jusqu'à 10 jours, c'est
mais
ça.
Mais ceux qui, le 1er mai, ont osé manifester ont été arrêtés. Même au sein de la Bourse du Travail, ils ont été bastonnés, on a vu du sang couler. Donc, ceux qui sont arrêtés, on a 11 prisons où ils sont...
dispatchés. Mmh.
Ils sont répartis, mais il n'y a même plus de place pour les prisonniers. Les prisons sont surpeuplées. Et les gens n'ont même pas assez de lits pour se coucher, s'allonger. On reste debout, on s'assoit, ou on se couche par alternance.
Donc c'est des conditions de détention inhumaines en plus de...
Des conditions horribles de vie dans cette prison. Et il n'y a pas un seul médecin. Il n'y a pas de présence de médecin. Ce qui fait qu'en 2025, il y a eu 47 morts dans les prisons.
C'est énorme.
Et il n'y a pas de... Il n'y a pas une gestion limpide de ces décès. Les familles ne savent pas de quoi sont décédés leurs parents en prison. Et parfois, on ne vous appelle même pas pour récupérer le corps. Donc, on pense qu'on a quelqu'un en prison. En fait, il est déjà mort, sans qu'on le sache. Donc, il y a aussi une atteinte au jugement. Lorsqu'on arrête les gens, normalement, c'est en 3 ans qu'on les juge.
D'accord.
Les criminels, c'est 5 ans. Mais au Bénin, maintenant, on fait 10 ans sans jugement, sans procès.
10 ans de détention provisoire.
10 ans de détention provisoire sans jugement.
En attente du procès. Ah oui, d'accord.
Oui. Donc,
tout ça, c'est une façon de casser les oppositions.
Complètement. Et ce qui est encore plus grave, avant, on pouvait rendre visite à son parent ou à son ami en prison. Mais maintenant, il y a une disposition qui impose que ce soit en ligne qu'on prenne rendez-vous. Pour aller rendre visite à quelqu'un en prison, il faut prendre rendez-vous en ligne. Il faut avoir la possibilité de le faire.
Oui, de s'inscrire à aller sur Internet.
Et ce rendez-vous nécessite des pièces. Les pièces administratives de la personne qui veut aller rendre visite et les pièces administratives de la personne qu'on veut aller voir. La personne est emprisonnée.
Il faut
Comment obtenir ces pièces?
D'accord. Donc c'est tout un protocole.
Pour verrouiller même
les droits
les
de visite.
Visites. Or, le silence tue deux fois dans la mesure où, si vous êtes en prison, que vous ne voyez personne, que vous ne savez pas si on se bat pour vous dehors, pour vous faire sortir, vous mourrez à petit feu.
Et qu'on ne peut pas témoigner à ses proches aussi, ce qui nous arrive.
Voilà.
Très bien.
Donc, c'est une situation qui est assez grave et qui nécessite qu'on en parle pour que les gens sachent ce qui se passe dans le pays. Il y a beaucoup qui disent « Talon a fait les routes, elles sont belles les routes, mais derrière les jolies routes qui sont construites, voilà la réalité. » Sur le plan humain, c'est inadmissible. Donc nous, on est là pour nous battre, tout comme on l'a fait sous Kérékou, lorsqu'il y a eu la première dictature, jusqu'en 89. Et en 1990, il y a eu une conférence nationale où tout a été refait. Maintenant, on est retombé dans une deuxième dictature encore plus féroce.
Oui, en plus, dictature sous couvert de démocratie, donc beaucoup plus, on va dire, efficace, entre guillemets, pour contrôler le peuple.
Oui.
Je voulais vous poser une question, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. On sait que la France ne soutenait pas forcément Patrice Talon à son arrivée au pouvoir
au
Bénin.
Au début.
Au début. Oui. Et du coup, comment ça s'est passé pour que la France en soit aujourd'hui, et justement, à lui venir en aide quand il est... quand il est sous le coup d'une tentative de coup d'État, comment les relations entre la France et le Bénin ont évolué pour qu'aujourd'hui on en arrive à ce niveau-là. Et on reviendra aussi sur l'aide, sur la, comment dire, sur la coordination militaire, exactement, le soutien militaire et ce que la France fait au Bénin en termes militaires.
Oui, au début de son règne, il n'était pas très francophile. Donc, il échappait un peu
Au
contrôle de la France. Mais ce n'était pas encore gênant pour la France dans la mesure où il y avait encore la même base sur le Sahel. Or, depuis que les peuples du Sahel se sont éveillés et ont pris leur destinée en main, les troupes françaises ont été chassées des 3 pays de l'AES. Et ces troupes sont hébergées au Bénin. Donc, il y a la Côte d'Ivoire aussi, qui est un pilier de la France. Avec le Bénin, ces 2 pays-là comptent désormais pour la France. Et ça a été la raison de réconciliation entre les deux, entre Talon et Macron, par exemple, où en 2024, il y a eu carrément un accord militaire signé entre les deux. pour récupérer les forces françaises chassées du Sahel et aussi assistance. Et l'assistance, c'est ça qui s'est manifesté par sa défense lorsqu'il a failli être renversé le 7 décembre dernier.
D'accord.
Et... une précision.
Bien sûr.
Le fait que Patrice Talon soit devenu le chouchou de Paris, en fait, il a toujours été francophile. Et il est venu se vanter ici devant le patronat français pour dire « Vous voyez, j'ai le même patronyme que vous, je m'appelle Talon. Je ne suis pas Mohamed ou quoi que ce soit, je suis Talon. » Et le problème, c'est que pour être élu, il a affronté le candidat direct désigné par la France, qui était Lionel Zinsou. Et donc, il a affronté le candidat de la France face à face. Il l'a battu. Et la France avait ses chouchous du moment qui étaient Yahi Boni, qui a proposé, qui a fait venir Zinsou. Donc, le chouchou numéro un, c'était Yahi Boni. Mais progressivement, étant de la même école de la France-Afrique, et compte tenu des besoins de la France l'a amadoué, l'a mis dans son truc, l'a bien récupéré, et il est devenu le plus préféré. Et la France considère que c'est son meilleur pion aujourd'hui qui dompte son peuple, qui l'opprime et qui lui permet de faire ce qu'elle veut. Parce que dans les faits aujourd'hui, la France a transformé le Bénin en protectorat. Il s'est passé quelque chose de très choquant en janvier dernier. En 1977, la France a commandité une agression contre le Bénin, sous Kérékou, avec Bob Denard comme exécutant, avec les présidents, les gouvernements africains complices, le Gabon de Bongo le Maroc de Hassan II, tout ça. Il y a eu des victimes. Il y a un monument en mémoire de ces martyrs-là. Cette année, des officiers français sont allés se faire décorer sur ce monument-là. C'est-à-dire que c'est pratiquement eux qui décident de pratiquement tout dans le pays aujourd'hui et que quelque part même talons un peu leur esclave, leur objet. C'est l'agent de service au Bénin aujourd'hui. Et on lui permet tout et en contrepartie, il a le parapluie pour se protéger contre son peuple.
Voilà, donc on a parlé déjà de ce parapluie, comme tu l'appelles, pour se protéger contre son peuple. Peut-être qu'on va, juste avant de passer à la pause musicale, on va faire une dernière question sur ça, sur ce que la France apporte au Bénin et inversement, ce que le Bénin apporte à la France. Puisque quand tu étais venu il y a environ un an, Génie, tu nous expliquais que, toi tu as parlé de protectorat, mais qu'en fait la France était, le Bénin était vraiment le cheval de Troie de la France en Afrique parce qu'il permettait, il avait récupéré les militaires du Sahel et qu'il permettait en fait un contrôle de la France sur la région, c'est ça?
Oui, sur l'Afrique de l'Ouest, si tout lui échappe, la France est par terre. Donc, il lui reste deux piliers, c'est la Côte d'Ivoire et le Bénin.
Et donc, particulièrement depuis que les troupes françaises ont quitté le Sahel, c'est ça? Oui. Le Bénin est d'autant plus stratégique qu'il permet une présence militaire française en Afrique de l'Ouest, c'est ça?
C'est ça.
Très bien.
Oui, il y a cette donnée-là qui est d'ordre géopolitique. La géopolitique fait qu'effectivement, c'est un territoire très important pour eux avec leur visée sur le Nigeria, qui est très puissant et qu'il faut casser. La France avait initié déjà la guerre du Biafra.
Et on a vu l'attaque américaine pour Noël aussi dernier. Voilà.
Et donc aujourd'hui, leur souci commun des pays de l'OTAN, la France en avant, c'est comment déstabiliser les pays de l'AES. Et le Bénin et la Côte d'Ivoire sont les deux ponts principaux par rapport auxquels ils veulent attaquer ces pays-là pour reconquérir les choses. Et c'est géopolitique, c'est économique. Il y a des richesses béninoises qui sont contrôlées. On a de l'or, on a du pétrole non exploité et tout cela. Il y a la vie économique. Toute la vie économique par la voie du franc CFA est contrôlée par la France. Vous ne pouvez pas faire du commerce avec d'autres pays sans passer par la France. La monnaie qui est utilisée au Bénin s'appelle le franc CFA. Il y a un seul pays au monde qui peut en assurer la convertibilité, c'est la France. Parce que c'est une devise, on ne pouvait pas laisser le marché international, vous devez passer par Paris.
Par la
c'est
France, puisqu'elle est, elle est faite en France, de toute façon.
À sa manière, il vous tient. Donc, c'est toutes ces questions-là qui font qu'aujourd'hui, ils font tout pour transformer notre pays en base arrière, pour contrer les choses et en même temps protéger le pouvoir. Et le président Macron s'est félicité de ça le 8 janvier dernier, devant la conférence des ambassadeurs, en disant que la nouvelle politique africaine de la France est expérimentée au Bénin avec succès. Et ils ont dit que ce qui choquait les gens, c'était que les bases militaires très grandes là, qui font que...
étaient trop visibles.
Étaient trop visibles, qu'il faut les rendre moins visibles, tout en maintenant les choses.
On maintient le pouvoir, mais on rend le pouvoir moins visible, c'est ça?
Voilà. Tout à fait, pour poursuivre la même chose. Lui s'en félicite, étant donné, lui n'a pas le courage de reconnaître que des forces françaises sont sur le terrain. Tout le monde voit ça.
Mais lui, il ne le reconnaît pas officiellement.
Il ne le reconnaît pas officiellement.
Et ceux qui en parlent,
et ceux
sont,
qui
arrêtés.
En parlent sont arrêtés.
D'accord, très bien.
Pour dénonciation calomnieuse.
D'accord, donc on comprend très bien d'un côté la répression de Talon envers son peuple, oui, pour, oui, se maintenir au pouvoir, et de l'autre côté, l'intérêt qu'il voit, que voit la France pour garder sa mainmise hégémonique sur le continent. Ah, oui. Donc merci pour toutes ces informations. On va juste faire une petite pause musicale de quelques minutes et on revient pour parler du Bénin dans la deuxième partie. Et on est de retour dans l'actualité des luttes après cette très belle pause musicale. Merci à Joël pour le choix de la musique. Donc on est de retour pour parler du Bénin, de la situation au Bénin, où Patrice Talon est au pouvoir depuis 10 ans, depuis 2016, et où il a formé une véritable autocratie sous couvert de démocratie en gardant tous les pouvoirs, en s'arrangeant pour que l'opposition n'ait absolument ni les syndicats n'aient la possibilité de créer des contre-pouvoirs, et en s'assurant que le processus de vote lui soit entièrement favorable. On va passer maintenant à ceux qui ont voulu
aller contre cet état de fait, et puisqu'il y a eu une tentative de putsch, de coup d'État, le 7 décembre 2025. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ce qui s'est passé le 7 décembre 2025 ? Honoré.
Honoré.
Bah, ce qui s'est passé, c'est que nous, on s'est réveillés avec des officiers qui sont venus à la télé annoncer qu'ils ont pris le pouvoir, qu'ils ont renversé Talon.
C'est les images qu'on a tous vues, oui.
Et dans le pays, dans les différentes choses, les gens ont créé un ouf de soulagement, on est débarrassé d'un dictateur. Mais aujourd'hui, quand vous dites ça au Bénin, on dit que vous faites apologie de terrorisme et apologie de coup d'État. Mm-hmm. Et donc, on peut vous arrêter. On a arrêté des jeunes pour ça.
Oui, je ne me doutais pas. Depuis, de toute façon, tout ce qu'on dit est réprimé, donc ce n'est pas étonnant que ce
parce
soit...
Parce qu'on les aurait peut-être vus exprimer leur joie pour dire « Ah, Talon est tombé ». Et donc...
On ne peut pas se le permettre.
On ne peut pas se permettre ça. Il faut dénoncer le coup d'État pour faire chose. En réalité, la question du coup d'État, c'est une question objective. La situation dans le blocage est telle que des gens de toutes origines cherchent une issue. Les élections, on voit que depuis qu'il est là, aucune élection n'a été démocratique, transparente et crédible. Et donc, c'est par la force qu'il faut défaire les lois qui sont là. Les militaires, leur force, c'est les armes. Et donc, on peut comprendre, même si on ne partage pas, si on ne choisit pas ça comme mode de prise de pouvoir, ce qui est mon cas, moi je pense que les militaires n'ont pas à venir imposer leur volonté aux gens, mais je comprends que dans la situation d'étouffement, parce que les militaires sont aussi des citoyens, ils cherchent, et donc ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils n'ont pas réussi. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On n'était pas, moi, je ne suis pas dans l'économie de coup d'État. De toute façon, c'est un truc objectif. Ils ne demandent pas l'avis de quelqu'un avant de faire.
Et du coup, c'est une poignée de militaires qui ont tenté de prendre le pouvoir dans la nuit du
6 au 7 décembre. Chose. Et comme on disait, il paraît qu'à 2h du matin, ils se sont présentés chez un des responsables militaires haut gradé de la sécurité. Et qu'ils se sont pointés chez le président de la République à la cime principale vers 5 heures du matin. Le récit, le narratif ainsi donné, demande quelle est cette tactique-là, de ces putschistes-là, est-ce que c'est un coup d'État arrangé, qu'est-ce qui s'est passé en réalité. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé pour qu'on laisse une cible principale, qu'on s'attaque aux cibles, choses qui se passent 3 heures. Le temps que la cible principale se prépare pour contrer. Pour partir. Bon. C'est une interrogation. Moi, je suis pas stratège militaire, mais je constate une incohérence dans le fait qu'on ne fasse pas des attaques simultanées sur les cibles principales. Et donc, je ne connais pas les causes de leur tactique. Maintenant, on émet... Des gens, on a mis quelqu'un sous mandat
d'arrêt.
Truc par Interpol, là, mandat d'arrêt.
International, c'est ça?
Oui, parce que la personne a écrit sur son réseau les bonnes choses commencent demain.
C'est toujours pareil, c'est toujours le moindre mot, c'est ça donc, qui sera en défaveur de Talon qui est réprimé.
Donc ça... Et puis un autre qui se serait félicité de féliciter les officiers qui ont osé faire un coup d'État et on les recherche. Mais curieusement, sur la liste, là, on ne voit pas le nom du chef des putschistes.
D'accord.
Où est-ce qu'il est aujourd'hui?
Personne ne le sait. Tout a été fait de façon opaque, c'est ça?
Enfin, en tout cas, à mon niveau, moi, je n'ai pas d'informations sur là où il se situe, où il est, s'il est en vie ou pas. Toujours est-il que récemment, son frère, qui est un homme politique, a été aussi arrêté.
D'accord.
Et qui a cette hystérie répressive qui s'est déclenchée depuis le 7, là où on fait la chasse à tous ceux qui... le pouvoir n'est pas tranquille, quoi. Ils sont allés tellement loin qu'ils voient le mal partout. Et que, ils ne peuvent pas dormir non plus. Comme on dit chez nous, l'enfant qui empêche sa maman de dormir ne dort pas non plus. Donc, talons qui empêchent le peuple de respirer, ne peut pas respirer.
Très bien.
La situation est telle que, bon, les mêmes causes produisant les mêmes effets, tant qu'on ne va pas casser l'arsenal juridique qui est en place pour qu'il y ait une respiration démocratique, des gens chercheront, avec les moyens dont ils disposent, à provoquer un changement.
Je crois que c'était aussi la position que j'avais vue dans un groupe du Parti communiste béninois qui disait qu'il n'approuvait pas la méthode des militaires de venir comme ça prendre le pouvoir,
oui.
Mais que dans une situation démocratique aussi désespérée où les gens avaient aussi peu de moyens de faire valoir leurs droits, il fallait malheureusement s'attendre à ce que ce genre
ça risque de recommencer.
Voilà, exactement, arrive encore et encore.
Oui.
Et du coup, ce que tu nous dis, Honoré, c'est que depuis ce putsch manqué du 7 décembre, il y a une frénésie répressive du pouvoir, c'est ça ?
Ah oui, oui, il y a un harcèlement, une hystérie répressive où on guette tout, on regarde sur les réseaux sociaux, si quelqu'un s'en félicite, quelqu'un parle de coup d'État, et non pas pour le dénoncer, mais...
En termes élogieux, il peut être
Il peut
arrêté.
Être inquiété ou chose, ou la moindre manifestation de satisfaction par rapport à ce truc, ou de félicitations aux militaires qui ont osé, ben ça vous vaut une arrestation. Et c'est ce climat de terreur-là qui existe depuis, qui a présidé aux élections. Ça s'est passé le 7 décembre. Les élections législatives ont eu lieu le 11 janvier pour nous donner un parlement monocolore, des mairies monocolores, des chefs de village monocolores et tous les pouvoirs aux mains des choses. Et il est à prévoir en avril que le président prochain sera un homme élu, nommé par Talon, et que l'élection ne sera qu'une mascarade pour valider cette nomination, puisqu'il n'a pas de concurrent.
C'est ça, donc c'est les choses dont on allait parler sur ces élections du mois d'avril. Je te remercie d'avoir fait la transition, Honoré. Donc là, pour les législatives, du coup, effectivement, comme tu disais, c'est monocolore. Hein, c'est les deux partis de Patrice Talon qui ont fait razzia sur les 109 sièges disponibles.
Oui. Qui ont raflé tous les sièges.
Ouais.
C'est 109.
Ouais. Puisqu'on disait,
109 sur 109.
C'est ça, on disait que les REP démocratiques, comme les partis d'opposition, n'ont pas pu faire 20% dans toutes les régions, et ben on considère qu'ils ont fait 0%.
Oui.
Tous leurs scores où ils ont obtenu 20% sont annulés. Oui. Et du coup, l'opposition n'a pas le droit de citer, c'est ça. Et il ne reste que les partis présidentiels ou affiliés qui, eux, en plus, avec 10% seulement, peuvent être qualifiés au deuxième tour. Oui. Et donc, c'est très facile, vu qu'ils sont seuls ensuite, de rafler absolument tous les votes. On le comprend. Et du coup, vous, comment vous voyez cette présidentielle, puisqu'on sait que ce sera probablement Romuald Ouadani qui sera mis en avant par Talon, puisqu'il ne peut pas se présenter pour un troisième mandat. C'est bien ça ?
Oui, cette situation où il ne peut pas se présenter, ça répond en fait à un rapport de force intérieure. Ce n'est pas l'envie de rester qui lui manque.
Je suppose, vu tout ce qu'il a fait.
Et... Mais en fait, il faut dire qu'il reste.
Sous une autre forme, c'est
oui,
ça ?
Oui, oui. On aurait pu l'imposer comme on a fait en Côte d'Ivoire pour reconduire Ouattara.
Oui.
On aurait pu faire comme un quatrième ou huitième mandat de Biya au
Cameroun.
Au Cameroun. On n'a pas fait ça parce qu'il y a un rapport de force intérieure qui fait que c'est une seule provocation au peuple et on a peur que ça ne provoque des soulèvements. Et donc, on dit qu'il va sortir. Mais comme il va sortir, il met en place des structures pour rester.
Au pouvoir, bien sûr.
Voilà. Pour garder la main sur le pouvoir et celui qu'il a mis là, qui est son garçon de course depuis, qui est son ministre des Finances depuis 10 ans, c'est lui qui l'a nommé comme président. C'est une nomination parce que le candidat de l'opposition a été éliminé par des manigances, des magouilles, des choses de toutes sortes qui font qu'on les a éjectés du jeu et ben, il est tout seul.
C'est une tactique qu'on connaît bien finalement, puisque c'est celle utilisée par exemple par Poutine pour se maintenir au pouvoir, qui avait laissé Medvedev... faire des mandats et qui est revenu bon président. Mais on peut dire que voilà, sous une autre forme, Patrice Talon pourra garder sa mainmise politique et son pouvoir. C'est ça, Honoré ?
La différence, c'est que tout le monde ne peut pas être Poutine parce que Poutine, il a mis quelqu'un pour revenir.
Oui.
Lui n'a pas confiance à celui qu'il va mettre là.
Et donc,
il a conscience que le faiseur du roi devient le sujet du roi et que ce type-là peut lui échapper, qu'il a les pouvoirs. Donc, il met une structure de contrôle au-dessus de lui.
Voilà.
Pour le tenir en laisse. C'est ça le Sénat qu'il a mis en place.
Parce que lui, du coup, il sera nommé au Sénat une fois qu'il aura perdu son siège de président.
Oui.
Et du coup, il pourra décider, comme on disait, des lois.
Il continue de gouverner. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Il continue de gouverner. Et il applique ce que les Britanniques ont fait pendant la colonisation. Et quand il fallait donner les indépendances, ils ont dit on part pour mieux rester.
Il n'y a pas que. La France-Afrique, c'est parti pour mieux rester.
Oui, tous. Oui. Ils sont partis pour mieux rester. Oui. Mais là, il a construit comment il va rester. Il a construit le système pour rester sans contestation, ni de l'intérieur, ni de l'extérieur. Alors, il reste une voie. On propose une conférence nationale à nouveau pour s'asseoir, comme Honoré a dit, et réfléchir à comment faire redémarrer notre pays qui est bloqué.
Ce sera au mois de mars, c'est ça?
Oui.
On donnera la date exacte quand elle sera connue.
Non. La conférence nationale au Bénin.
Ah, au Bénin, pas de la diaspora. D'accord, au Bénin. Il y aura une conférence aussi en mars.
Comme issue, on pense que, il n'appartient pas à un parti ou même à des militaires, qui que ce soit, qui prennent le pouvoir, qui va dicter seules les règles, les nouvelles règles.
D'accord. Mais après ce que vous m'avez dit sur la répression, comment est-ce qu'on pourrait imaginer, du coup, une conférence qui se tiendrait pour...
Il va pousser le peuple au soulèvement, tout simplement, parce qu'il faut que les gens résistent. C'est inadmissible ce qui se passe aujourd'hui au Bénin. Le Bénin qui était vu comme le phare de la démocratie dans la sous-région, maintenant on n'est plus que les derniers. Ce n'est pas possible. Donc, il reste une chose aux gens, c'est résister. Ils ont résisté pacifiquement en n'allant pas voter. Maintenant, il faut résister d'une autre manière. C'est le soulèvement. S'ils ne veulent pas qu'on s'entende pour changer notre manière de vivre ensemble, ce sera fait d'une autre manière.
Ou encore des coups d'État, comme on le disait, puisque de toute façon, c'est une hégémonie qui est très difficile à contourner.
Et ils ne peuvent pas contrôler tout le monde. Ils contrôlent le peuple, mais il y a des franges de la population qu'ils ne peuvent pas contrôler.
Bien sûr.
Nous, ce que nous proposons, c'est sagement aller à une conférence nationale pour remettre en cause ce système et mettre en place un vivre ensemble. Mais s'ils ne veulent pas ça, le peuple qui boude déjà va trouver les moyens de concrétiser sa résistance.
Je ne sais pas si Honoré, tu voulais ajouter quelque chose sur...
Oui,
vas-y, Eugénie, vas-y, continue.
Il a créé la CRIETE, par exemple. C'est la Cour de répression des infractions, etc., pour consécuter le système classique
de justice.
Mais tout le monde sait que cette Cour n'a pas de transparence. Et les verdicts, les gens qui sont passés par là disent que les verdicts sortent de la Marina. La Marina, c'est le palais présidentiel. Hein? Donc, on arrête les gens, on connaît d'avance le verdict lorsqu'ils seront jugés. Même sans être jugés, on sait comment ils vont être condamnés. Donc, c'est un scandale aussi. Hein? Et là, par exemple, dans le Nord, les attaques terroristes commanditées par ceux qui forment les terroristes, les armes, les financent, les protègent et les orientent par les informations de comment il faut bombarder telle position dans le Nord en attendant de se faire une bonne place pour aller attaquer l'AES. Et ces attaques ont produit 24 294 personnes déplacées.
Déplacés dans leur propre pays,
du Bénin
au Bénin.
Au nord du Bénin. Et c'est des choses dont le gouvernement ne veut pas qu'on parle. Or, c'est de la réalité. C'est la réalité et les gens vivent dans la précarité et dans la peur de l'attaque, des attaques qui se produisent de jour comme de nuit. Et il y a maintenant une base militaire qui est en train d'être aménagée dans le nord carrément.
Mais il ne faut pas qu'elle soit trop voyante, c'est ça ?
Voilà.
Sinon, ça
crée... Comme a dit Macron.
On continue de gouverner, de mettre des bases militaires,
oui,
sans que ce soit trop ostensible, mmh, pour que la population voit la mainmise de la France sur, oui, sur, oui, le territoire.
Oui.
C'est difficile à cacher. Hein.
Une base militaire, oui.
L'aéroport de Tourou, c'est leur place tournante. Par là, qu'ils déversent tout. Ils déversent tout ce qu'ils veulent.
Oui.
Et ils ont aussi des bateaux qui viennent à Cotonou. Ils acheminent ce qu'ils veulent dans le pays.
Les armements.
En fait, ils sont en territoire conquis, quoi.
C'est ça.
Et donc, c'est cette situation insupportable qui est chose. Non, on ne peut pas opprimer durablement un peuple. Ça va finir par péter. Je ne sais pas comment et quand. Ma conviction est faite. Ça ne peut pas durer. Et lui-même, président de la République, là, il ne peut pas dormir tranquille.
Et il faut remonter aussi dans l'histoire du Bénin.
De ce point de vue-là, moi, je suis convaincu que ça va partir. Ça peut arriver à tout moment. Et parce que lui-même, il sait ça. Et il se borde de textes, des choses, de la terreur qui sème. Mais il y aura toujours des gens pour braver cette terreur-là. Et le changement sera déclenché.
D'autant que ce que tu nous disais...
Et pour qui connaît l'histoire du Bénin, du peuple béninois, on sait que le peuple béninois observe dans le silence. On croit qu'il a abdiqué. Et quand il se réveille, c'est pas du tout jojo pour les gens qui ont pensé qu'il est vaincu. Donc c'est ça.
Mais ce que vous dites m'inspire le fait qu'effectivement, on a l'impression que la voie démocratique, elle est totalement barrée.
Oui.
Puisqu'on a vu, c'est Renaud Akbodjo, c'est ça, qui est, oui, leader des démocrates, qui, oui, lui-même voulait se présenter aux élections présidentielles d'avril, oui, mais qui n'a pas reçu suffisamment de parrainage. Et donc, il a pu être arbitrairement écarté de la course à la présidentielle. Donc, effectivement, même les institutions qui paraissent démocratiques, ben, en fait, elles sont faites de sorte qu'il n'y ait aucune opposition au clan, on va dire, de Patrice Talon.
Oui, quand on dit ça, on croirait qu'effectivement, les choses se sont passées tranquillement, que Akbodjo n'a pas eu tous les parrainages.
Mais c'est encore pire que ça. Vas-y.
C'est pire que ça. En réalité, c'est Talon qui a donné au Parti démocrate 28 députés.
Mmh.
Et il a mis dans la Constitution, dans le code électoral, qu'il faut 28 parrainages. 28 parrains. Les parrains, c'est soit des députés, soit des maires. Il a le contrôle sur tout ça. Et on dit au chef du parti, les députés ne sont pas libres de parrainer qui ils veulent. Ils signent les papiers à blanc et ils déposent ça aux mains du chef de l'État ou du chef du parti. C'est lui qui met le nom des gens à parrainer. Maintenant, théoriquement... Les démocrates avaient 28 députés.
Donc 28 parrainages possibles. On est d'accord jusque-là.
Mmh. Théoriquement.
Il en a racheté un.
Donc il s'est descendu à 20.
Il a mis de l'argent.
À la veille du dépôt des parrainages.
Il a acheté un député
qu'elle a retourné contre son parti. Qui a refusé de donner son parrainage à son chef de parti.
Akbodjo. Qui, pour, du coup, ne pourra pas se présenter.
Donc, c'est comme ça qu'on a bloqué le fait que le parrainage, il n'a pas pu réunir les 28 parrainages. Mais il y a eu d'autres trucs qui font que... Et vous avez vu qu'il a dit qu'il se retire de la vie politique, temporairement. Ouais. Il y a eu d'autres ressorts, d'autres trucs qui font de chantage sur lui. C'est un avocat.
Akbodjo est un avocat.
C'est un avocat. Et le pouvoir a fait des chantages sur lui. Il aurait pu être sorti du barreau et tout cela. Et donc, il s'est retiré. Et le président du parti, qui est Yahya Boni, est allé voir le président de la République pour lui dire qu'il ne faut surtout pas faire ça, qu'il faut laisser son parti aller aux élections. Il a humilié. Il lui a dit, tu vas passer un accord avec mon parti ou tu n'auras rien. Il est sorti groggy et une semaine après, il a dit, Talon ne veut aucune opposition.
C'est intéressant parce que de la façon dont vous le racontez, que ce soit au niveau militaire, extérieur ou au niveau intérieur, comment la démocratie est totalement verrouillée, on a l'impression de revoir les espèces de vieilles méthodes de la France-Afrique où la France, pour se maintenir sur un territoire, donne tout le pouvoir à quelques hommes, oui. S'arrange pour que le pouvoir soit le plus difficilement contestable, pour qu'il se maintienne le plus possible, exactement. De façon à garantir, oui. ses intérêts sur le continent africain.
Voilà. Et c'est ce qui divise un peu l'opposition béninoise un peu. La division, la fracture passe par le fait que les libéraux qui se contentent de la gouvernance sous le chapeau de la France-Afrique, qui a gouverné le pays depuis les indépendances, il y a tout ce monde-là, les libéraux qui ont gouverné le pays jusque-là, ils considèrent qu'il faut ménager la France. Il ne faut rien faire pour chose parce que si tu n'as pas l'onction de Paris, tu ne peux pas être président au Bénin. Donc il faut venir s'agenouiller ici, s'entendre avec chose, donner la garantie que les intérêts français seront chose. En ce moment, tu ouvres la porte.
Ils prônent l'alternance.
Et ils veulent l'alternance dans le même système.
C'est ça. C'est une alternance de façade.
Voilà. Et il y a l'opposition des patriotes qui disent on a déjà fait ça. Sous Kérékou, on a fixation sur l'agent au pouvoir en ce moment-là, sur le président en exercice, Kérékou. On a réussi à le défaire, on a chassé du pouvoir. Mais la France a tiré les marrons du feu, il a mis un autre à la place. Ça a fait alternance dans le système.
Et donc jamais de souveraineté pour le peuple béninois, jamais. Et jamais ses intérêts.
Et donc
qui sont,
ce qui fait la cassure, c'est donc que les patriotes disent il faut à la fois défaire Talon et le système qui le porte, la France-Afrique. Sinon, on peut chasser Talon, mais il y aura un Talon bis qu'on va nous présenter.
Et on n'arrivera jamais
à
libérer
à
le
avoir
peuple
la souveraineté nécessaire. Du pays ne sera pas acquise.
D'accord.
C'est ça qui fait la césure dans les rangs de ce qu'on peut appeler opposition.
Les
il y a les démocrates. C'est la branche de l'opposition, les libéraux. Et il y a les patriotes qui disent qu'il faut aller plus loin en tirant les leçons même de notre pratique, de ce qu'on a fait dans le passé,
oui, de notre
pour ne pas
histoire.
Répéter les mêmes erreurs, pour qu'on ne nous serve pas les mêmes choses. Un gars comme Foucault s'est félicité de dire que c'est la France qui a ramené Kérékou au pouvoir contre Soglo. Oui. C'est selon les choses. On a vu que Yahi Boni était le favori, le chouchou de Paris et en 2016. Mais aujourd'hui, Talon a pris la place.
Et c'est le nouveau favori et c'est un cycle qui continue.
Voilà.
On va conclure là-dessus, Honoré, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, malheureusement. Merci beaucoup. C'était très, très éclairant sur la situation du Bénin et sur l'impossibilité pour les élections à venir de changer profondément quelque chose. Donc il y a des événements qui arrivent très rapidement, donc une soirée culturelle au 14 rue Georges Politzer à La Courneuve le 4 avril à 20h, donc ça c'est avec le comité culturel pour la démocratie au Bénin, c'est ça. Il y a une conférence en mars aussi, c'est ça Eugénie ?
Oui, de la diaspora,
oui,
sur conférence. La situation du recul important des droits humains au Bénin.
D'accord.
L'aggravation donc des atteintes aux droits humains au Bénin. Il y a une conférence publique dans le courant du mois de mars à Paris.
Très bien. Eh ben, on relaiera l'événement. Merci beaucoup, Honoré. Merci beaucoup, Eugénie, pour cette émission très éclairante.
Merci
à Joël pour la technique. Merci à nos auditeurs. Et on vous dit à demain dans l'actu des luttes sur FPP 106.3 FM. À bientôt.
Merci.
Merci.
Avec nos petites idées, dans un petit coin, ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça ne marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitédesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.